Hello, c'est Audrey. Alors, avant que tu puisses écouter ton épisode, je voulais te dire qu'en ce moment, on célèbre l'épisode 150 du podcast Murmuricain. Et pour l'occasion, je t'ai concocté un quiz bien sympa pour tester tout ce que tu connais déjà du bien-être équin. Grâce à ce quiz, tu vas pouvoir te rendre compte que tu connais énormément de choses, et certaines questions sont aussi là pour te faire réfléchir. Mais pas de panique, à la fin du quiz, tu pourras télécharger toutes les réponses aux questions, accompagnées d'une réflexion sur le sujet. Le quiz est disponible dès maintenant sur le site internet murmure-animal.com/quiz. Quiz. Avec un seul Z. Je le répète encore une fois, murmure-animal.com/quiz. J'espère que ce quiz sera aussi divertissant qu'enrichissant et je te souhaite une bonne écoute de ton épisode. À très vite! Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuricain. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuricain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline qui va nous parler des problématiques de son cheval Ashton. Bonjour Pauline. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, donc qui tu es, comment t'en es arrivée aux chevaux et comment t'en es arrivée à Ashton?
Donc, bonjour à toutes. Donc, moi, je m'appelle Pauline. Je vis en région parisienne et j'ai presque 40 ans. Donc, je suis presque une vieille.
Presque.
J'ai toujours été, presque, ouais. J'ai toujours été passionnée par les chevaux et ça a même commencé avec les ânes quand j'étais petite. De base, c'est les bourriquets qui me fascinaient. Et comme on m'a dit qu'il n'était pas trop possible de monter sur un bourriquet, bah, j'ai monté sur un poney Shetland. J'ai commencé en club à l'âge de 8 ans et j'ai fait que du club jusqu'à mes 18 ans, donc Shetland, double poney, cheval, j'ai passé 4 galops et à 18 ans j'en ai eu marre de l'esprit club, j'en ai eu marre de tourner en rond dans une carrière, donc j'ai commencé à prendre des chevaux en demi-pension, différents types de chevaux qui avaient déjà tous leur spécificité. Ça changeait beaucoup des chevaux de club que je montais à l'époque. Donc j'ai fait à peu près pas mal de chevaux en demi-pension et après j'ai eu très vite l'envie de devenir propriétaire. Donc quand j'ai eu mon CDI de validé après mes études avec ma première paye, j'ai fait quoi? J'ai acheté mon cheval.
Comme moi en fait, après la première paye.
C'est ça, CDI validé, première paye, j'ai acheté mon cheval, donc c'était en 2012. En 2012, j'ai croisé la route donc du coup de Ashton, qui à l'époque était petit parce qu'il avait à peine 2 ans, donc c'était encore un poulain. Du coup, j'ai rencontré Ashton en 2012, au printemps 2012, dans une petite association qui fait de la balade dans l'Eure-et-Loire et qui a quelques poulains de temps en temps avec une toute petite activité d'élevage. À la base, je montais là-bas pour faire des balades, tout simplement parce qu'à l'époque, je n'avais plus de demi-pension et je voulais me tourner vers l'équitation d'extérieur. Donc, j'étais adhérente dans cette petite association et la personne avait encore un poulain disponible à la vente et c'était Ashton, donc il est né en 2010 et moi j'ai croisé sa route au printemps 2012. C'était un petit peu une évidence quand je l'ai vu dans son pré, tout pas beau parce que un Irish Cob à peine 2 ans, ils sont pas toujours méga méga jolis physiquement. Voilà, il était entier et clairement c'était pas forcément en plus la race que je voulais acheter, ouais. Mais voilà, j'ai craqué, je sais pas expliquer pourquoi. J'ai craqué sur lui, je l'ai acheté. Je me suis empressée de le faire castrer bien évidemment pour qu'on puisse avoir des portes, enfin toutes les portes qui s'ouvrent devant nous pour le futur. Je l'ai fait castrer et donc je l'ai acheté au printemps 2012. Voilà, il avait presque 2 ans. Et après, du coup, je l'ai rapatrié un peu plus près de chez moi, en vallée de Chevreuse, pour qu'on puisse commencer nos années ensemble. Voilà un petit peu pour notre rencontre.
Voilà comment vous êtes rencontrés. Ouais, donc Ashton est ton premier cheval.
Tout à fait, oui, tout à fait. Mon premier cheval à moi, après plusieurs années de demi-pension. Ouais.
Et Ashton n'est pas né, il me semble, dans l'élevage. Donc, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'Ashton avant que tu l'achètes?
Alors effectivement, les infos que j'ai, parce que c'est ce qui m'a été raconté par la personne qui me l'a vendu, c'est qu'Ashton est un petit peu un vrai gitan, comme sa race souvent le veut. Il est arrivé, enfin sa mère a été achetée par la personne chez qui je l'ai moi-même achetée, arrivée pleine. En tout cas, c'était pas trop prévu, visiblement, qu'elle soit achetée pleine.
D'accord, donc la personne qui avait acheté la maman d'Ashton ne savait pas qu'elle était pleine, c'est ça?
Tout à fait, voilà. Et tout ça s'est découvert lors du transport de la dite jument. Et du coup, voilà, elle était visiblement avancée dans son terme. Donc voilà, Ashton, de ce que je sais, est né un petit peu entre l'Irlande et la France, aux sorties du bateau, à l'arrache dans un pré en France, le plus
Ok.
près possible de Calais. Donc il est né un petit peu, ouais, entre guillemets, à l'arrache, et il a été tout de suite remis dans un camion pour arriver dans le 78.
Ouais, donc
Voilà.
en fait, la personne avait acheté la maman d'Ashton, qui était pleine, mais on avait oublié de lui dire.
Ouais, comme souvent, ça
C'est un
arrive.
peu ça. Et donc, elle a réceptionné, en fait, quand la maman d'Ashton est sortie du camion.
Elle a
Il y
dû arriver un
avait
poulain avec.
la maman d'Ashton et Ashton qui devait du coup avoir 1 ou 2 jours, quoi.
Oui, alors je crois, si je me rappelle bien de tout ce qui m'a été dit, c'est qu'ils les ont quand même laissés un petit peu au pré avant de, enfin quelques jours avant effectivement de les ramener en camion, le temps qu'il y ait les soins, je pense aussi, de la maman, un minimum. Et après, effectivement, mais il a voyagé très très petit dans un camion pour rejoindre. Bah, le lieu où il a pu grandir avec sa mère après, jusqu'à temps que je l'achète. Donc c'est un gitan.
Ouais, c'est une naissance qui est quand même très particulière.
Oui, c'est un nomade. Il est arrivé ici un peu en nomade, oui, tout à fait.
Une naissance dont on n'a pas l'habitude. En général, c'est prévu. La maman est mise dans un endroit qui est sécurisé. Le poulain arrive. Enfin, voilà. Ils
C'est
y
ça.
restent pendant 1 ou 2 mois dans cet endroit et ensuite seulement ils voyagent.
Voilà, c'est les infos que j'ai
Ouais.
qui m'ont été données par la personne chez qui je l'ai acheté. Donc voilà un
Et donc
petit
du
peu
coup, ouais,
pour.
de ces quelques jours à ces 2 ans, il est resté chez cette personne.
Voilà, tout à fait. Ouais.
Donc tu l'achètes en 2012, il a 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment se passe votre évolution ensemble ensuite?
Donc du coup, bah, je le rapatrie un petit peu plus proche de chez moi pour pouvoir passer le plus de temps possible avec lui, parce que j'avais conscience d'acheter un poulain, donc de devoir tout faire, toute son éducation de base, et je voulais absolument être disponible. Donc je l'ai rapatrié beaucoup plus près de chez moi pour pouvoir aller le voir tous les jours. Ça s'est très bien passé. Franchement, nos débuts se sont très bien passés. Je me suis tout de suite fait encadrer pour
Okay.
commencer son éducation à pied. C'est un poulain qui était plein de vie, qui était démonstratif. Et je parle pas au passé, hein. Il a toujours ces côtés-là, mais pour resituer dans l'époque, voilà, en tant que poulain, il était bah, plein de joie de vivre. Il s'est développé hyper harmonieusement. Après la castration, c'est vrai que voilà, il a pris des formes. Voilà, il est devenu très poilu. Il a fait vraiment voilà tous les types de la race en fait. Il a toujours un petit peu un physique avec un cul plus haut que le garrot, mais ça c'est aussi
Okay.
atypique des poulains aussi de cette race-là qui sont quand même un petit peu mal formés jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes. Les premières années, c'est Donc, je l'ai eu à 2 ans. Jusqu'à ses 5-6 ans, franchement, c'était que du bonheur. On a commencé le travail à pied, l'éducation, tous les soins. Et j'ai toujours encadré. Et c'est un poulain qui était méga zen. Rien ne le contrariait, rien ne lui faisait peur. Tout s'est très bien passé dans son éducation et notre relation. Enfin, en tout cas, les premiers mois et les premières années de notre relation. Donc, c'était vraiment top.
Tout s'est passé comme tu l'avais. Enfin, même si t'avais pas. Est-ce que tu avais prévu d'acheter un jeune?
Pas du tout. Non,
C'était
pas du
pas
tout. Et
prévu.
surtout pas cette race-là. Je savais que je voulais un Hongre, mais j'avais pas forcément prévu de craquer sur un Irish Cob. Et j'avais surtout pas du tout prévu de craquer sur un poulain. À l'époque, je m'étais dit, mon premier cheval, il faudrait que ce soit un cheval d'âge un peu mûr. Voilà, parce que j'avais pas non plus un niveau équestre, voilà, assez conséquent pour me permettre de débourrer moi-même un cheval. Donc j'étais plutôt partie sur effectivement un cheval d'âge mûr. Donc je n'ai pas du tout acheté le type de cheval que j'avais imaginé, en fait.
Mais toujours est-il que ça s'est passé quand même d'une manière très bien, enfin,
Oui, ça
d'une
s'est passé
manière
très
qui
bien.
vous a convenu tous les deux. Et si je comprends, en fait, les premières années de ta vie, Ashton a répondu à tes attentes, si on pourrait
Tout
dire
à fait,
entre guillemets.
oui,
Enfin, c'est la vie que tu
tout à
avais
fait.
imaginée avec lui.
Je lui ai offert la vie que j'imaginais pour lui. Il était au pré avec des copains. Je me suis toujours fait conseiller, encadrer. Donc voilà, j'ai mis en place une routine de travail et de soins qui était adaptée pour lui à l'époque. Vraiment, le débourrage s'est fait comme une lettre à la poste.
Il n'avait pas l'âge ni la race de ce que tu avais en tête,
Ouais.
mais en tout cas, il avait le comportement de ce que
C'est
tu avais
ça.
en tête.
Et il m'a apporté énormément, et c'est ce que je cherchais aussi comme relation, mon idéal un peu de relation avec mon cheval. Donc non. Après, ça m'a fait très peur aussi d'avoir un jeune, donc je me suis mis beaucoup de pression.
D'accord.
Je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais pas rater son éducation. Je voulais tout faire bien parce que je m'étais dit si je rate quelque chose, je vais le prendre en boomerang
Ouais.
quelques temps après. J'ai fait au mieux. Ouais, au début, je me suis donné corps et âme. J'allais le voir tous les jours, même des fois 2 fois par jour pour instaurer une relation. C'était beaucoup. Je me suis beaucoup investie et au final, ça a créé les bases de notre relation et franchement, c'était top. Les premières années avec lui ont été magnifiques. Donc ça, c'est un gros, gros bon souvenir.
Un gros bon souvenir.
Ouais, c'est
Et
ça.
du coup, pas de problème non plus de santé les premières années.
Pas du tout. Non, 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 jusqu'à à peu près, donc de 2012 à début 2015, c'était RAS, quoi. C'est, je faisais venir le véto pour les vaccins, les parages, ça roulait, le dentiste, voilà, à part les dents de loup qui ont été enlevées. Il n'y a
Mais
rien eu de
bon.
particulier. Vous voyez l'ostéo tous les 6 mois. Un peu une routine, voilà,
Ouais.
une routine
C'était sur
assez classique.
Un cheval aussi. T'avais des attentes peut-être sur le physique. Enfin, en tout cas, en général, les gens ne s'attendent pas à devoir acheter un cheval avec des problèmes de santé.
Non, normalement, on n'y pense pas.
Et en tout cas, les 3 premières années, c'est ce qui s'est passé.
Ouais, c'était un cheval facile, même dans la gestion.
Ouais.
Dans la gestion au quotidien, voilà, et ouais, je donnais un aliment spécial qui lui allait très bien. Il prenait de l'état, l'hiver, il restait en état, il était au fond à volonté avec les copains, à l'herbe. Il avait
Ça,
la
c'est
vie la
bien.
plus traditionnelle possible,
Parfait,
sans
quoi.
problème.
La
Ouais.
vie sans heurts, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé du coup en 2015?
Alors, ouais, de début 2015, même fin 2014, quand on y réfléchit bien, j'ai commencé à avoir quelques problèmes de peau qui n'étaient pas présents jusqu'à présent, la fameuse gratte-gratte qui apparaît souvent au printemps.
Donc attends, il se grattait au niveau des crins
Au niveau
ou au
de la
niveau des
crinière,
fanons?
non, pas du tout, les fanons ont toujours été épargnés, mais c'était au niveau de la crinière et au niveau des épaules. Il y a une année,
D'accord.
il a fait vraiment un gros trou, limite au sang, au niveau de l'épaule gauche. Et puis, il n'avait pas un beau poil. Fin 2014, le printemps voilà, il n'avait pas un beau poil. Je trouvais que physiquement, il n'était pas trop comme les précédents étés, enfin printemps-été. Il se faisait piquer, il avait des énormes réactions cutanées, pas comme des boutons, mais comme des gonflements. Il avait quelques problèmes de peau comme ça, qui sont apparus, qu'il n'avait jamais eu. Et puis, il se grattait, dès que je le voyais au pré, il se grattait sur tout ce qu'il trouvait, un arbre, un poteau, l'abri, il se grattait tout le temps.
Et il se grattait en particulier les crins et enfin, la crinière et l'épaule.
Les crinières, la queue, les épaules, et un petit peu le derrière. Alors, en général, ça n'allait pas jusqu'au sang, sauf à un moment, au niveau de l'épaule, oui, il s'est mis presque à 100. Donc là, j'ai commencé à me dire que c'était pas normal. J'ai pensé peut-être que c'était son aliment qui lui convenait plus. J'ai pensé aux piqûres d'insectes, peut-être qu'il faisait des réactions à des piqûres d'insectes. À l'époque, je n'expliquais pas trop ces problèmes de peau. J'ai supprimé l'aliment. Bon, ça allait pas mieux, pas pire. Le problème, c'est qu'on arrivait en été, donc les insectes, il y en avait plein. Donc, je ne pouvais pas supprimer les insectes pour voir si ça allait s'arranger. Donc,
Au moment-là, du coup, t'as fait venir le vétérinaire rapidement ou t'as commencé à gérer un peu toi-même, enfin.
j'ai fait venir le vétérinaire qui m'a dit, oh, il doit faire de la dermite estivale comme beaucoup de chevaux. Bon, ma foi, à l'époque, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah alors ça, c'est très compliqué parce qu'à part leur mettre des chemises intégrales et des produits qui ne marchent pas toujours sur les crins, etc., bah c'est en gros, on m'avait dit que c'était une sale période à passer, quoi.
Ok. Mais lui, il t'a dit, en gros, vous allez passer l'été et à l'automne, ça ira mieux.
Voilà, tout
D'accord.
à fait,
Et à
tout à fait.
l'automne?
Les premières années, à l'automne, ça se calmait. Ça se calmait. Il faisait son poil d'hiver. Il était beau comme chaque année. Il y a effectivement eu cette année-là des problèmes de peau, mais après, j'ai plus quasiment de problèmes de peau.
Donc l'automne et l'hiver, ça allait.
RAS, oui. Oui, tout à
Ok.
fait. Et j'ai dû changer de pension en début 2015, voilà, enfin à peu près avant le printemps 2015. Là, après, donc des problèmes de peau qui auraient dû mettre la puce à l'oreille à l'époque, je suis passée sur une petite toux isolée, comme ça, pareil au printemps.
Au printemps, il toussait et il
Oui.
toussait à l'effort ou il toussait
Non,
même un peu tout seul au pré?
il toussait tout seul au pré. Donc là, j'avais plus du tout de problème de peau l'année qui suit. Il avait un super poil, il était comme depuis Poulain, pas aucun problème. Mais là, c'est la toux qui s'invitait. Petite toux, histoire qu'on le remarque quand même au frais, on se dit, oh tiens, c'est pas trop normal. Ça le gênait pas pour travailler, ça le gênait pas pour vivre, mais juste de temps en temps, il avait une petite quinte. Alors bah moi, je fais quoi? Je fais revenir le vétérinaire. Pour qu'il l'ausculte et tout. Et on me dit, oh, sans chercher la cause, hein, toujours, on me dit, oh oui, c'est une petite toux inflammatoire, allez, un petit peu de cortisone et on n'en parlera plus. Moi, je fais ce qu'on me dit à l'époque. Je lui injecte une semaine de cortisone en intramusculaire, conformément à la prescription du veto. La toux cesse, Ashton reprend sa vie normale, on travaille, il a 6-7 ans, ouais, il allait sur ses 6-7 ans, tout allait bien, tout allait, j'ai plus aucun problème de toux ni de peau jusque à peu près 2018.
Ah oui, donc entre 2015 et
Ouais.
2018, t'as eu ni de toux, ni d'éruption cutanée.
Non, j'ai eu effectivement, j'ai eu un problème de toux en 2015, mais après 2016-2017,
Ça roule.
aucun problème, ça roule, ça roule. Et en 2018, c'était l'année de l'horreur qui commençait parce que les toux sont revenus. La toux est revenue par crise, enfin par épisode, et là ça coïncidait avec les périodes où il était au foin. Il était au foin à l'époque, foin en sous cloche, foin à volonté, hein, comme il a toujours eu, mais sous cloche. Et là, dès l'introduction du foin, il se mettait à tousser. Il se mettait à tousser. C'était plus préoccupant que ce que ça l'avait été en 2015. Ça veut dire que les quintes étaient beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus importantes. On voyait que là, il commençait à être encombré.
Ouais.
Donc on dépassait sur un autre stade de toux que la simple petite quinte qu'il avait eue quand il était plus jeune.
Donc là, tu étais sur une toux qui le gênait, quoi.
Oui, qui le gênait et qui était pour le coup, là, on se dit, c'est anormal. Ce n'est pas une quinte où il n'a pas une gêne qui peut être ponctuel. Là, on sentait que le problème, il était peut-être plus de fond, quoi, entre guillemets.
Est-ce que tu avais des jetages ou est-ce que juste la toux était plus ample, on va dire, plus profonde?
J'avais pas vraiment de jetage, mais j'avais toujours au niveau des naseaux, des traces blanches. Les naseaux vraiment encombrés, jamais propres. Enfin, il crachait pas non plus, mais voilà, il était vraiment encombré.
Tu l'as remarqué du coup sur les naseaux quand
Tout à fait. Je voyais que les naseaux, il y avait toujours, bon, c'était jamais propre et souvent, ouais, un peu comme on dit souvent, les chevaux, ils mougent quand ils ont des sécrétions blanches qui
même.
sortent des naseaux. Lui, c'était un petit peu ça. Et surtout, on voyait que vraiment, il était gêné et que la toux, elle venait vraiment de l'intérieur, quoi, que c'était vraiment une gêne.
Il était plus capable de faire autre chose quand il toussait.
Non, à l'effort,
C'est
ça le
ça.
gênait. Ça le
Parce que
gênait
souvent, on le
énormément.
voit, des fois, les chevaux trottent et puis il y a une petite toux, puis ils continuent de
Ah
trotter
non,
en ayant
lui, ça le
toussé.
gênait
Ouais.
énormément. C'était vraiment au travail, c'était compliqué. Alors, comme la crise, entre guillemets, était plus ou moins forte, enfin, l'intensité pouvait varier. Il y a des moments où il pouvait faire un travail léger quand même, et d'autres moments où il ne pouvait pas. Donc, c'était assez compliqué de savoir comment gérer ça et surtout quoi en penser à l'époque. Donc, j'ai fait revenir le véto
Bah oui.
pour voilà.
Est-ce que j'ai une question, est-ce que c'était le même veto que t'as fait revenir qu'en
Oui,
2015 ou... D'accord,
c'était
c'était
le
le
même
même vétérinaire.
cabinet. Alors, pas le même véto à chaque fois parce qu'ils sont plusieurs dans ce cabinet-là, mais c'était le même cabinet qui suivait depuis qu'il était petit.
T'avais un suivi médical.
Voilà, de sa castration jusqu'à là, c'est le même cabinet qui le suivait. Donc, ils sont venus, ils l'ont ausculté et ils m'ont laissé encore dans le flou, comme les problèmes de peau et comme la première quinte. Ils m'ont dit, ah oui, effectivement, il a une respiration anormale, il a effectivement une quinte de toux, il a l'air encombré. Ils m'ont donné des bronchodilatateurs et encore de la cortisone. Sans vraiment chercher qu'est-ce qui pouvait provoquer ça, ils ont dit, oh, c'est peut-être la poussière du foin.
À ce moment-là, il n'y a pas eu d'analyse particulière qui ont été menées sur Ashton.
Non, pas du tout. En tout cas, pas au début des crises un petit peu anormales. On m'a dit, oh, il est peut-être intolérant à la poussière qu'il y a dans le round ball de foin. Moi, sur le coup, bon, j'ai encore fait confiance aux professionnels de la santé qui me suivaient. J'ai respecté le protocole de soins de bronchodilatateurs et de cortisone. Et ma foi, la poussière du foin, je me suis dit, je ne peux pas vraiment l'éviter. Il n'était pas non plus possible de donner du foin mouillé là où j'étais. Je dis, bon, on va voir comment tout ça évolue, quoi.
J'ai dit, on va essayer déjà les bronchodilatateurs et la cortisone,
Voilà,
et
tout
peut-être
à
que ça
fait.
va passer.
Tout à fait. Sauf que, bah, non, en fait. Alors, ça s'est amélioré et les crises se sont stoppées un temps, mais ça revenait. Ça revenait de manière cyclique dans l'hiver. À chaque fois, j'avais 2 ou 3 semaines de
D'accord.
tranquillité et après, là, la crise revenait. Et là, je me dis, non, il y a quelque chose. Enfin, il faut chercher. C'est pas possible. Son environnement n'avait pas changé.
Ouais, t'avais pas changé de pension entre 2015 et 2018.
Si,
Ok.
mais je veux dire, les conditions de vie étaient les mêmes. Il était toujours au pré avec du foin l'hiver. L'aliment que je lui donnais était le même.
Le lieu avait changé.
Voilà, lui avait changé, mais les conditions de base étaient toujours restées les mêmes. Et c'est vrai que là, j'ai dit à la véto qu'il fallait sûrement essayer de chercher pourquoi ces crises revenaient, que ça allait être difficilement gérable de lui donner de la cortisone tous les 4 matins. Là, la vétérinaire a dit, bon, on va faire une prise de sang, il fait sûrement des allergies, on va faire une prise de sang pour voir un petit peu ce qu'il en ressort, s'il a des allergies et à quoi. Donc, on a fait une prise de sang, les résultats sont revenus, là, on a vu que c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, mon cheval est allergique à peu près tout ce qui peut exister sur la terre, comme les céréales, les graminées fourragères, les acariens, les moisissures, certains types d'arbres, les insectes, notamment les culicoïdes qui piquent, et plein d'autres choses, enfin certaines plantes aussi, il est allergique. Donc concrètement, quand on voit les résultats de l'analyse de sang, on se dit, comment fait ce cheval
Pour
pour
vivre.
vivre, en fait? Là, je vois graminées fourragères, je vois acariens, je vois moisissures et je me dis, c'est en fait tout ce qu'on trouve dans le foin, clairement.
Ce que tu trouves dans du foin, et
Voilà.
notamment dans du foin de... enfin, les graminées fourragères, c'est du
Voilà,
foin en
bah, c'est
fait.
ça. C'est du foin et souvent dans le foin, il peut y avoir quelques acariens et des moisissures
Ouais,
normalement, non, quand il est de bonne qualité, mais.
il y a quand même de temps en temps des acariens de stockage qui sont
Voilà,
présents, qui
c'est ça.
sont
Oui. Acariens de
normalement.
stockage, oui, c'était ça. C'était même le libellé exact
Ouais, c'est des
de
acariens qui
l'allergie.
sont présents dans beaucoup de foin. C'est difficile de les éliminer,
Tout
mais
à
la
fait, ouais.
majorité des chevaux les tolèrent, c'est ça qui n'a rien de stockage.
Oui. Donc lui non. Donc en fait effectivement, le foin, on s'est dit là, oui, le foin est un problème pour le coup, pour
Mon
lui.
cheval est allergique au foin.
En fait, c'est ça, ouais, tout, à ce qui constitue
Le
le
foin.
foin, quoi. Et là, on m'a dit, oh, le vétérinaire m'a dit, mais vous savez, il est quand même encore jeune, hein, parce que bon, 2018, Ashton avait 8 ans. On peut tester un protocole de désensibilisation.
Oui.
Très bien. Moi, toujours partante pour tout faire, je le fais. Et là, on me fait tester une désensibilisation sur 10 allergènes. Sur le coup, moi je fais ce qu'on me dit, mais je comprendrai bien plus tard que balancer 10 allergènes en même temps, c'est trop pour un organisme, et qu'il aurait fallu sûrement se limiter à 4-5 bien choisis.
Quitte à en faire 3-4 les premiers, la première désensibilisation et une année après faire une deuxième
C'est
cour de
ça.
désensibilisation.
Seulement moi, on m'a fait faire ça d'un coup d'un seul,
D'accord.
et j'ai fait ce qu'on m'a dit un peu à l'aveugle, vu qu'au final c'était trop pour son organisme pour pouvoir assimiler correctement les anticorps et développer des résistances. Du coup, c'était trop. Donc ça, à l'époque, je le savais pas. Je l'ai appris plus tard avec le nouveau veto que j'ai fait venir quand tout s'est empiré. Mais à l'époque, c'était beaucoup trop. On désensibilisait un cheval à 10 allergènes à la fois. C'est énorme pour l'organisme.
Et donc ça s'est encore empiré.
Ça n'a rien fait. En fait, la désensibilisation, c'était du pipi de chat. En fait, il ne réagissait pas parce que c'était de toute façon
D'accord.
trop pour lui. Et son organisme était déjà agressé en permanence. Donc, en fait,
Donc il n'a pas réagi à la
il n'a pas
sensibilisation.
réagi du tout à la désensibilisation, et le problème a continué. Et c'est même empiré parce que là, au niveau respiratoire, à chaque nouvelle crise, il respirait de moins en moins bien et c'était de plus en plus compliqué pour lui.
Donc, tu avais toujours ces périodes intercrises où il respirait mieux.
Ah, dès qu'il était à l'herbe,
Dès qu'il était à l'herbe, il respirait mieux, mais par contre, dès qu'il revenait au foin,
le
tu avais
problème
de nouveau
revenait.
des
Ouais.
difficultés respiratoires et tu avais des difficultés respiratoires
À fait.
qui étaient plus sévères que la crise d'avant, quoi.
Voilà, à chaque fois qu'il y avait des crises, en fait, les symptômes à chaque crise augmentaient en intensité et on voyait clairement que mon cheval ne respirait pas bien et qu'il était à l'époque en souffrance, hein, disons-le, clairement.
Enfin, un des symptômes aussi, on remarque ton problème respiratoire, c'est qu'à un moment donné, en fait, le cheval mange moins. Il interagit moins avec ses congénères, il mange moins parce qu'en fait, même juste de manger, ça lui cause des difficultés respiratoires. Est-ce que tu as eu des problématiques comme ça, toi?
Alors lui c'est un glouton, donc il a toujours mangé. J'ai pas remarqué à l'époque, enfin en tout cas dans les crises, une perte d'appétit et une perte d'état. Pas du tout. Il est resté dans des formes physiques assez impressionnantes. Bon, il avait des abdos en béton armé du fait de sa maladie forcément, alors qu'il foutait rien. Mais physiquement, il a toujours été magnifique et les gens ne comprenait pas pourquoi il était malade d'ailleurs, parce que physiquement il était
C'était
magnifique.
beau.
Par contre, au niveau sociabilité, il s'isolait, il
D'accord.
développait un surcaractère, il développait ouais, un peu un surcaractère, quoi. Il était présent, archi présent, un peu comme pour compenser le fait qu'il se sente sûrement pas. Il était un peu dur avec les autres aussi
D'accord,
dans
donc
le
lui,
troupeau.
il ne s'isolait pas parce qu'il y a des chevaux qui s'isolent.
En tout cas, pas tout le temps. Des fois, ça lui arrivait d'avoir
Ouais.
des moments où on sentait vraiment que là, il prenait sur lui, il avait besoin d'être tranquille et tout. Il a compensé ça un peu, je dirais, par une surprésence dans le troupeau.
Ok.
Et il fallait qu'il montre qu'il était là
Une
et que.
agressivité un peu envers ses congénères.
Ouais,
Ouais.
à l'époque, en 2018, il était pas très très sympa avec
Oui, voilà.
les autres.
Non, mais on peut le dire. Enfin, c'est pas parce que je te dis pas que ton cheval est méchant, mais en tout cas, tu avais remarqué que de base, il s'entendait bien avec ses congénères.
Ouais, il avait une agressivité, ouais, il avait une agressivité un peu,
Plus élevée avec ses congénères.
voilà, tout
C'était
à fait. Oui, tout
un
à
des
fait.
comportements associés que tu as remarqué, quoi.
Ouais. Et de fil en aiguille de l'année, en fait, et bah à l'automne 2018 et hiver 2018, bon bah les problèmes ont repris, hein, après la super saison à l'herbe où il a revu comme pas possible. Les problèmes revenaient. Moi, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, parce que lui supprimer le foin, ça me paraissait impossible. Je me dis, mais comment je vais pouvoir le faire vivre dans des conditions où l'hiver, il ne peut pas avoir de foin? Je me dis, ça n'existe pas, une pension au pré sans foin l'hiver. J'étais complètement
Je veux dire,
perdue.
même une pension, enfin, une pension sans foin, il y en a très très
C'est
peu.
ça, je me dis dans la région dans laquelle on vit, comment je vais faire, enfin, comment je peux faire pour donner des conditions de vie à mon cheval qui soit adapté à sa
Oui.
maladie, parce que moi j'avais vraiment mis le mot sur le fait que bah il était malade, il n'avait pas de système immunitaire, il était agressé partout. C'était pour moi une vraie maladie et je me suis demandé mais comment je vais, quelles conditions de vie je vais pouvoir lui offrir pour qu'il soit un minimum confortable et sans mettre à mal ses besoins. Et ben, j'étais totalement perdue parce que je me suis dit comment j'allais faire.
À ce moment-là, enfin, du coup, tu te sentais totalement démunie face à ton cheval.
Oui, ah, clairement. Puis
Ouais, de pas savoir comment faire et où c'est que tu as trouvé de l'aide? Enfin, est-ce que tu as trouvé de l'aide quelque part et où?
bah alors j'ai pas pu compter sur les vétos parce que les vétos, tout ce qu'ils ont trouvé à me dire, c'est oh bah il faudrait supprimer le foin ou réfléchir à un autre mode de distribution du foin mouillé ou purifié. Bah oui, c'est des idées, mais
Ouais, mais
concrètement,
moi je
comment
vis en
mettre un...
pension.
Voilà. Moi, je peux pas avoir mon cheval chez moi, j'ai pas de terrain, je peux pas l'assumer moi-même parce que je travaille et que bah, j'ai besoin d'avoir un minimum de services en pension. Donc voilà, les idées des vétos étaient bien mignonnes, mais concrètement impossible ou quasi impossible à mettre en place.
Mais n'était pas adapté à ta vie à toi.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc bah là, je me suis dit, il faut te documenter sur bah, le système immunitaire, essayer de
D'accord.
comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans son corps pour essayer après de voir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire et ce que tu peux faire pour essayer d'aider. À l'époque, j'étais même pas sur le fait de lui trouver un idéal, mais j'étais sur le fait d'essayer de l'aider comme je pouvais. Donc
Oui, tu voyais l'état de ton cheval qui se dégradait au fur et à mesure de chaque crise.
ouais.
À un moment donné, tu dis, en fait, on va aller jusqu'au moment où mon cheval ne pourra plus respirer et va mourir.
Bah et voilà, et en plus j'ai la chance d'avoir une sœur qui est dans le milieu médical et elle m'a dit la cortisone, c'est parce qu'au début on voulait me le mettre sous
À vie.
cortisone à chaque hiver, dès qu'il y a une crise, le laisser sous cortisone pendant des semaines. Et on m'avait dit il galopera comme un poulain, et croyez-moi que même sous cortisone, il n'a jamais galopé comme un poulain. Donc et ma sœur m'a dit c'est un cache-misère, c'est horrible, on peut pas faire ça, c'est on va avoir des problèmes associés liés à la cortisone, c'est pas possible de lui donner ce traitement-là à chaque fois sur des si grosses périodes.
C'est mettre un pansement sur une
Voilà,
fracture,
c'est
quoi.
du cache-misère et ça réglera pas nos problèmes et surtout ça n'aidera pas son système immunitaire à faire quelque chose. Donc, bah, je me suis documentée sur Internet, j'ai passé des nuits blanches, j'ai passé des nuits blanches à chercher sur des sites vétos belges souvent. En Angleterre, j'ai vu qu'en Angleterre, ils donnaient très peu de foin sec à leurs chevaux de sport, qu'ils étaient très avancés sur toutes les questions des problèmes de respiratoire et de poumons, et qu'ils passaient sur des foins en rubanés spéciaux, etc., et qu'ils avaient des très très bons résultats sur ça. Et justement, je me suis aussi documentée sur qu'est-ce que c'est qu'un système immunitaire quasi existant, comment l'organisme est attaqué. Et c'est là que j'ai fait le lien avec les problèmes de peau qu'il a eu au début. C'est là que j'ai fait le lien sur les petites quintes de toux qui arrivent comme ça de manière isolée. Et c'est là qu'en fait, tout un petit peu s'est éclairé et que j'ai compris que les symptômes que j'avais pas mesurés avant étaient en fait tout simplement les prémices de quelque chose qui se tramait dans son corps, quoi. En tout cas, que le corps essaye de dire quelque chose à l'époque avec des paliers plus ou moins importants à chaque fois et que en fait, le corps s'exprimait mais que bah, je suis passée à côté parce que tout simplement, je ne savais pas.
Oui, donc t'as trouvé en fait tes clés toute seule, quoi.
Voilà, c'est ça. En cherchant,
En passant des
c'est
nuits et
ça.
des nuits
C'est
sur
ça. Et
Internet.
là, j'ai fait le lien sur tous les symptômes et j'ai compris. Et ça m'a fait aussi changer de regard sur ce que c'est qu'un système immunitaire, tout ce qu'on injecte à nos chevaux en chimique. J'ai totalement changé ma vision sur ça. Les vermifuges, les vaccins, les céréales. Enfin, j'ai vraiment changé totalement ma vision sur ça. J'ai développé aussi un peu mon esprit critique de me dire qu'est-ce que toi tu ressens, qu'est-ce que tu as vu sur ton cheval à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce que tu te rappelles en fait de ces périodes-là? Comment il était, son comportement, etc. Et ça a fusé dans ma tête pendant plein et plein de nuits où j'ai fait des associations. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont éclairées, en tout cas sur la partie liée aux causes. Et puis après, il y a le qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça
Ouais.
maintenant qu'on a un petit peu compris comment le corps s'est exprimé? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien alors là, c'était la deuxième partie de la grosse période très très compliquée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai testé la première solution qui était de lui mettre du foin en filet, parce qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé d'autre solution que de le laisser quand même au foin. Mais je m'étais dit, le foin en filet, il y a moins de poussière.
Ça va éviter qu'il puisse mettre son nez
Voilà,
totalement
son nez
dedans.
dedans, tout à fait. Il est brassé à la main par quelqu'un qui le met en
OK.
filet. Donc, je me dis qu'effectivement, tout ce qui est acarien de stockage dans un round, peut-être qu'il y en aura moins. Voilà, je me suis dit, qui tente rien n'a rien. Donc, je l'ai changé d'endroit. Je l'ai mis dans un super endroit qui est magnifique, mais qui n'a pas réglé mon problème puisqu'il est enfin voilà il a pas réagi aux espoirs que je fondais dans le filet à foin et la maladie a continué à empirer aussi. C'est chez cette formidable personne-là que on a atteint un pic en fait de la maladie où là en fait il était ce qu'on peut appeler en détresse respiratoire, c'est-à-dire que là il était gêné plus, 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 et
Tout le
qu'en
temps.
fait, il, tout le temps, et que vivre au quotidien était compliqué pour lui. Et fort heureusement qu'il était chez cette personne qui était super, qui voilà, me donnait des nouvelles et qui me dit là, je sais plus quoi faire pour le soulager. Et là, je me suis dit, Pauline, il faut que tu demandes un nouvel avis médical. Il
Ouais.
faut que tu le fasses voir par quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne l'a jamais vu, qui prenne tout son historique.
Ouais, donc à ce moment-là, en fait, t'as trouvé des solutions toute seule, t'as trouvé ce que tu penses être une clé de voûte, c'est-à-dire son système immunitaire, en effet, qui se fait
Oui.
agresser par tout et n'importe quoi et qui cause des problèmes respiratoires.
À fait.
Et du coup, tu t'es dit, bah là, j'y arrive plus seule, je vais redemander, je vais chercher de l'aide,
C'est ça.
quoi.
En tout cas, j'arrive plus, oui. J'arrive plus avec le vétérinaire qui nous suit, qui concrètement ne m'a proposé aucun examen médical poussé, à part
Ouais.
une simple auscultation au stétho. Voilà, il n'y a jamais eu d'investigation autre. Et je me suis dit, là, il faut que tu demandes un autre avis médical pour déjà voir si c'est concordant ou si on peut t'aider ou pas.
Oui, ou peut-être que tu faisais fausse route, en fait, enfin.
Voilà, pour rassurer, déjà poser un diagnostic clair et puis après voir quelles options on envisage. Mais moi j'avais besoin que un professionnel de santé m'explique exactement qu'est-ce qui se passe. J'avais besoin qu'on ausculte mon cheval, à part mettre un stétho pendant 5 secondes sur lui, j'avais besoin qu'on l'ausculte, j'avais besoin qu'on lui fasse des examens, j'avais besoin de savoir quels étaient les dégâts de tout ça, j'avais besoin que voilà, quelqu'un se penche un peu sur le cas de mon cheval. Et donc, du coup, je me suis dit, là, il faut que tu sollicites un nouvel avis médical, quelqu'un qui ne le connaît pas. Donc, j'ai pris un vétérinaire indépendant qui n'est pas rattaché à un cabinet, qui est venu le voir, chose que j'ai appréciée. Il m'a demandé tout son historique, aussi bien médical en termes de vaccins, quel traitement il a eu, tout ce qu'il a ingéré, que son alimentation, que son mode de vie. Il m'a demandé de tout lui expliquer de A à Z, et depuis que je l'ai. Et il a fait des examens, donc il a fait des prises de sang aussi pour voir si le foie marchait bien, parce que souvent les chevaux qui ont des problèmes respiratoires, ils ont des fois le foie un peu encrassé. Vu que le système immunitaire est agressé.
Oui, et puis vu que tu le traites, comme dit, avec des produits
Avec de la cortisone,
qui doivent être
oui.
éliminés, en fait, et l'élimination va passer par le foie.
C'est ça. Il voulait être sûr que déjà il puisse éliminer les toxines normalement. Donc il a fait une prise de sang pour voir si le foie marchait bien, parce que s'il marchait pas bien, ça aurait été aussi compliqué. Et il lui a fait L'examen de base quand on a des problèmes respiratoires, c'est une endoscopie pulmonaire pour voir
Comment ça se
l'état des
passe dans les
poumons,
poumons?
comment ça se passe à l'intérieur, chose qui ne m'avait jamais été proposée par le veto précédent. Bon, l'examen n'est pas facile à faire quand c'est son cheval. Voilà, être sédaté comme ça, une caméra dans les poumons,
C'est
c'est un
costaud parce que
examen invasif.
ça passe
Voilà.
par du coup on passe par le nez, ça passe
C'est ça.
quand ça ressort, ça saigne en
C'est
général un petit peu.
invasif. Ouais. C'est très, très
Ouais.
invasif. Bon, heureusement, il est sédaté. Voilà,
Mais c'est impressionnant à voir pour un
c'est.
propriétaire. Déjà en
Tout
tant que
à fait.
propriétaire de voir son cheval sédaté,
Oui.
impressionnant. Mais en plus de voir le tuyau et puis on y rentre des mètres.
Tout à fait. Ah oui, ben, tout à fait. Et là, déjà, cet examen-là, je me dis, bon, au moins, je vais voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe à l'intérieur. On va voir les dégâts. On va voir. C'est un veto qui veut creuser. Moi, j'étais à 100%
T'étais
pour parce
confiante?
qu'on vivait un
Ouais.
calvaire. Clairement, c'était.
Et au moment-là, lui, il t'a proposé en fait la bouée que t'attendais depuis.
Bah oui, tout simplement, creuser quoi. On va creuser, on va voir à quel point il est atteint et on va essayer de le soulager. Et effectivement, dès qu'il a commencé à mettre la caméra par le nez, il a vu que tout était obstrué du bout du naseau jusqu'à la pointe du poumon. Il y avait que du mucus. C'était encombré, mais
Ouais.
il m'a dit c'est super encombré ça.
C'est normal que le
C'est
cheval soit en détresse respiratoire, quoi. On a trouvé la
voilà,
cause.
il m'a dit. Et voilà, c'est ça. Donc, il a fait des prélèvements hein, du mucus pour voir s'il n'y avait pas des bactéries ou des champignons qui se logeaient là-dedans. Il a fait des prélèvements. Après, il est allé jusqu'au poumon. Il n'a pas vu, en tout cas, de gros dégâts au niveau des poumons de type fibrose pulmonaire qui pouvaient altérer effectivement l'élasticité du poumon et la capacité respiratoire. Il m'a dit bizarrement les poumons sont pas trop atteints, mais il a tellement de mucus qu'en fait il est gêné.
En fait, il s'étouffe.
Enfin, voilà, c'est ça tout simplement. Donc il s'est avéré que les prélèvements qu'il avait faits, il avait un champignon dans le mucus. Donc là, il a fallu traiter par antibiotiques pour déjà éliminer ça. Mais il m'a dit c'est pas ça
Il explique tout le
qui joue sur
mucus.
l'encombrement. Non, non, tout à fait. Donc il m'a dit là, il m'a clairement, il m'a dit ce que je voulais pas entendre, mais au moins il m'a posé un diagnostic. Il m'a dit, vous savez, si vous enlevez pas le foin, ça va être très très compliqué. Mais au moins il me l'a dit. Il m'a dit clairement, votre cheval, il faut revoir ses conditions de vie de A à Z.
Ouais.
Sinon, ça va devenir très très compliqué et ça va être très compliqué de le soulager.
Mais ce à quoi tu t'y attendais, parce que tu avais déjà essayé tout ce que tu pouvais en gardant
Tout
du
à
foin,
fait.
quoi.
Tout à fait. Mais au moins, voilà, les examens avaient été faits. Je savais qu'il avait un champignon dans tout ça, mais que les poumons n'étaient pas encore trop atteints. Et il m'a dit, si on arrive à lui trouver un environnement dans lequel il se requinque, les dégâts vont être enfin, infimes, quoi. Il gardera pas de séquelles respiratoires énormes. Et il m'a dit, bah, vous n'avez pas beaucoup le choix. Soit vous essayez le foin purifié, qui peut vous aider. Et encore. Il se dit, il n'était pas trop sûr que ça règle
Ouais.
vraiment le problème, et il m'a dit c'est une piste. Sinon, il m'a dit, mademoiselle, il faudrait le passer à l'enrubanné, qui donne de bons résultats sur des chevaux un peu comme lui. L'enrubanné spécial cheval, hein, bien sûr.
Oui, qui a un enrubanné, on va le noter, qui a un enrubanné qui est sec. Et pas un qui a un taux d'humidité, enfin, il y a différents taux d'humidité dans l'enrubanné. Pour les vaches, en effet, il y a un taux d'humidité qui est élevé. Et pour les chevaux, on est sur un taux d'humidité qui est faible, c'est-à-dire que le foin, on est sur un taux d'humidité de 2%, et je crois que l'enrubanné chevaux doit être entre 5 et 10, quoi.
Ouais, il y en a, on peut trouver à partir de, ouais, on peut, mais en général, à 15, on sent même pas, enfin, au
C'est
toucher,
sec.
c'est la différence, elle est impalpable. Moi, du coup, je me suis un peu renseignée, je me suis dit, oh là là, mais on va sentir la différence, si effectivement c'est humide, ça va peut-être être un peu plus gras dans les mains, etc. Et j'ai regardé, franchement, on voit pas déjà à l'œil nu, on voit pas la différence, et au niveau du toucher,
Et pour ton cheval, quelle est la différence? Parce que dans de l'enrubanné, vu qu'il est enrubanné, il y a très peu de poussière. Est-ce qu'il y a autre chose qui change avec du foin?
C'est la façon dont c'est récolté. Et le foin, en fait, quand on fauche, je ne sais pas comment on appelle ça, le fait de couper, enfin
Ouais, de faucher.
voilà, de faucher. Je sais que le foin, on le laisse longtemps sécher avant
On le
de le
laisse
mettre en
2-3
botte.
jours sécher.
Voilà. Et sauf qu'en fait, l'enrubanné, bah, dès que, quasiment à 24 heures près, je dirais, dès qu'on l'a fauché, on l'embottine dans les fameux cellophane de couleur pour qu'il soit un maximum humide et qu'il se rapproche le plus possible de l'herbe, en fait, tout simplement.
D'accord. Donc tu vas chercher en fait à donner de l'herbe entre guillemets
Ouais, c'est ça.
toute l'année, et pour donner de l'herbe, bah du coup tu vas chercher quelque chose qui se rapproche enfin de l'herbe
Au
conservée quoi.
maximum, ouais, en termes de propriétés nutritives et de composantes, parce qu'en fait,
Donc d'où l'enrubanné.
voilà, et c'est effectivement le procédé de fabrication qui est différent du foin traditionnel et qui, du coup, est cellophané un petit peu pour garder justement
Cette humidité.
l'humidité, les propriétés nutritives de l'herbe. Et puis c'est conditionné, il y a différentes tailles. En fait, il y a les petits sacs. Donc là, on est 2019, il me suggère cette option d'alimentation. Mais moi, je me dis, enfin,
Et
oui,
comment?
comment je fais? Comment je fais pour qu'il ait des copains? Comment je fais pour que bah, ses copains mangent comme lui? Ce serait quand même mieux plutôt que de devoir lui faire un régime particulier et surtout qui peut me prendre à ces conditions-là. Ça veut dire avec de l'enrubanné, en collectivité, pas à 2 heures de chez moi. Comment je fais? Donc j'épluche toutes les annonces de pension, je fais moi-même mes propres posts de je recherche une pension avec tel et tel critère. Il s'avère que bah il y a
Ça
quasiment
n'existe
pas
pas.
d'endroit ou ouais, presque pas qui propose de l'enrubanné en collectif. Donc on m'a dit bah madame, nous on peut vous le prendre mais tout seul. Donc avec son propre régime alimentaire, tout seul, à côté des copains, mais quand même tout seul.
Mais tout seul.
Voilà.
Parce que isolé, parce que c'est vrai que tu peux pas forcément donner, enfin.
Bah non, tous les chevaux n'ont pas ce besoin-là et lui, c'était vraiment particulier. Donc il fallait qu'il ait ça en période hivernale. Après, il pouvait être à l'herbe avec tous les copains, mais en période d'hiver, on avait ce problème de...
De séparation, enfin, il fallait la solution que tu as trouvée impliquait de séparer ton cheval en hiver.
Voilà, même ça s'est fini quand j'ai dû séparer mon cheval même toute l'année parce que je n'ai pas trouvé d'endroit qui acceptait de...
D'incorporer en
Voilà,
été et
c'est ça.
de.
Donc j'ai trouvé
Ouais.
chez un particulier, elle avait effectivement du terrain et elle m'a fait un pré à moi à côté des siens, mais elle s'adaptait 100% à mes problématiques
Ah, je t'aime.
d'alimentation, voilà. Mais il vivait tout seul, il voyait les copains par la clôture, mais il vivait tout seul. Donc j'ai dit bah il faut,
Okay.
c'est pas l'idéal pour lui, mais
Et donc là, ça fait en fait, du coup, tu m'as dit, donc là, on arrive en 2020,
ouais,
quelque chose comme
automne
ça?
2020, automne 2019, pardon, excuse-moi.
Donc ça fait maintenant 4 ans que Ashton a un régime alimentaire à base d'enrubanné. L'hiver et l'été, il est au foin. L'été, il est à l'herbe, surtout pas au foin.
Oui, tout à fait. Non, chez nous, c'est un petit peu Satan. Mais et voilà, donc j'ai testé, j'ai dit à mon véto, je lui ai fait valider les conditions. Je lui ai dit, voilà, si on trouve ce type de formule avec l'enrubanné l'hiver, il m'a dit, il faut essayer. C'est pareil, l'enrubanné, c'est pas forcément solution miracle pour tous les chevaux avec cette pathologie-là. Il m'a dit, il faut essayer. De toute façon, c'est en essayant qu'on va
On va
voir
voir.
comment il réagit. Donc voilà, automne 2019, me voilà partie dans ce type de pension-là.
Et qu'est-ce que tu as remarqué?
Ça a marché. Le premier hiver à l'enrubanné, les symptômes se sont très largement apaisés. Il n'a plus toussé. Sa respiration s'est nettement calmée. Il était beaucoup plus confortable. Il a retrouvé du peps. On a pu recommencer tranquillement à travailler un petit peu à pied. Franchement, pour nous, les conditions, voilà, ça a été le jour et la nuit. Et j'ai senti que mon cheval vraiment là commençait à se requinquer, en fait, gentiment, mais sûrement au fil des mois.
Sans du coup faire d'ajout, le seul paramètre que tu as changé, c'est l'enrubanné?
C'est l'enrubanné,
Ouais.
ouais. J'ai gardé son aliment sans céréales parce que ça, c'est entre guillemets beaucoup plus simple à mettre en place que de supprimer le foin.
Ouais, mais t'as gardé, enfin, je veux dire, t'as pas rajouté de choses, t'as pas fait de
Non.
nébulisation, t'as pas
Non,
fait.
pas du tout. Par contre, j'ai quand même continué à lui donner un complément alimentaire qui aide à expectorer, enfin en tout
À
cas
sortir le mucus.
à sortir le mucus. Ça, il en a eu pendant presque 3 ans.
D'accord. Donc ce complément plus l'enrubanné.
Voilà, tout à fait. Et puis du repos, et puis on attend de voir. Ça a marché des 6 à 9 mois après. J'ai vraiment vu la différence. Il a passé son premier hiver à l'enrubanné. Moi qui avais peur que ce soit trop gras, qu'il me fasse une fourbure ou quoi que ce soit, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, après, j'insiste sur le fait qu'il n'était pas à volonté sur l'enrubanné parce que enfin,
C'est
c'est
riche.
risqué de le donner à volonté. C'est plus riche, hein, c'est de l'herbe, clairement. Donc, il n'était pas à volonté, donc il était rationné. Mais voilà, ça a fait ses preuves. En tout cas, sur nous, ça a donné très bons résultats. Moi, mon seul problème, c'était qu'il était tout seul. Voilà, donc ça a été très compliqué pour moi à encaisser. Mais comme je voyais qu'il allait mieux, je me suis dit, bon, l'un dans l'autre, bah, sa santé prime. Donc, en fait, faut faire le deuil des fois, la vie idéale qu'on veut pour eux. Et il s'est requinqué comme ça depuis 2019. On a pu recommencer à travailler. Et voilà, on est sorti de l'incertitude, on est sorti de la galère parce que quand il était en crise, c'était compliqué à gérer. J'avais beau faire venir tous les ostéos, les masseurs, les kinésios, etc. Bah, le problème était toujours là.
Donc,
Donc, en
t'avais pas
fait,
enlevé le foin, t'avais le problème.
c'est ça,
Et
c'est ça.
je sais que t'as rechangé de pension, t'as rechangé
Oui.
d'endroit pour Ashton il y a pas longtemps.
Oui, bah parce qu'en fait, il était là, le problème que j'avais, c'était qu'il était en forme physique meilleure, mais tout seul. Et Ashton avait retrouvé bah, une santé minimale, mais du coup, il commençait un petit peu à avoir les travers de la vie, à travers de la vie solitaire.
Ah ouais, tu voyais des problèmes de comportement?
Un peu, ça veut dire que dès que je l'emmenais en balade et qu'il croisait des chevaux, qu'il passait à côté des prés, il avait un besoin de montrer qu'il était là, quoi. En fait, comme il côtoyait pas vraiment des chevaux, dès qu'il en croisait un, il fallait absolument qu'il se montre, quoi.
Ouais, son langage équin était en train de
Ah,
s'altérer,
clairement,
quoi.
il réagissait pour lui, c'était oh, mais moi je suis là, c'est qui lui, t'es qui toi, enfin, exacerbé plus, plus,
Oui,
quoi.
qui communiquait pas en disant bonjour, je m'appelle
Voilà,
Ashton.
c'est
C'était
ça.
bonjour, je suis Ashton.
Et c'était vraiment un exercice. Le fait de passer calmement à côté d'un pré de chevaux, c'était devenu vraiment un exercice de la balade à part
Ouais.
entière. Et là, je me dis quand même, enfin, je me dis quand même, maintenant il va mieux. J'avais toujours cet esprit de me dire, mais il y a bien des chevaux comme lui. Enfin,
Il y en a bien d'autres, ça doit pas être le
il y en a
seul.
bien d'autres, c'est ça. Et je me dis, il y a sûrement des propriétaires aussi qui sont dans la galère. Enfin, et je me dis, j'avais toujours espoir depuis 2019 que ces conditions de vie ont commencé à faire leurs preuves, de lui trouver dans mon monde idéal un endroit qui réunirait ces conditions et où il puisse avoir des copains.
Et te l'a trouvé.
Et du coup, je l'ai trouvé là au printemps dernier. J'ai trouvé un endroit où effectivement la formule alimentaire était adaptée pour lui. Donc, ça veut dire des chevaux qui sont en troupeau, au pré, avec de l'enrubanné l'hiver et des compléments aussi pour ceux qui ont besoin.
Dans cette pension, il y a un troupeau dont tous les chevaux ont le même
À
besoin,
l'enrubanné, oui.
qui est un besoin d'enrubanner en hiver et non pas de foin.
Tout à fait,
Donc, tu
c'est
as
ça.
trouvé une pension qui répondait aux besoins de ton cheval.
C'est ça, tout à fait. Alors c'était pas simple hein, parce que il y en a très peu en région parisienne. Je sais que dans d'autres régions de France ça existe, mais en région parisienne pas trop. Les pensions spécifiques pour les chevaux à problèmes respiratoires c'est encore trop peu développé. Mais j'avais toujours et même j'ai continué hein, quand je l'ai isolé entre guillemets contrainte et forcée, j'épluchais quand même encore les annonces pour voir si il n'y avait pas quelqu'un qui proposerait une formule hyper adaptée. J'ai pas arrêté pendant 4 ans de presque de fouiller sur le web s'il n'y avait pas des endroits qui seraient susceptibles de lui correspondre. J'ai jamais vraiment arrêté de chercher en sous-marin en fait. Et quand j'ai vu cet endroit, je me suis dit bon bah là il faut il faut lui donner des copains. Il faut lui donner des copains et sans mettre à mal ses conditions de vie, mais il faut lui donner des copains. Et au final, bah, pour l'instant, ça se passe très bien. On attend de voir cet hiver avec la mise en place de l'enrubanné comment ça se passe, mais l'intégration s'est très bien passée. Lui qui avait vécu tout seul pendant 3 ans dans un pré, à côté d'un chemin sans beaucoup de passages, il s'est retrouvé dans une écurie avec plein de prés aux alentours, des gens qui passent, des carrières, des chevaux qui travaillent à côté. Enfin, c'était vraiment lui qui sortait de sa brousse. Il a vu de l'animation, quoi. Donc, et puis au final, il s'est méga vite adapté. Et maintenant, voilà, j'ai retrouvé un cheval qui a des relations sociales avec les autres, qui a trouvé une chérie, qui est très protecteur avec elle et qui voilà, et qui a sa vraie place dans le troupeau. Donc,
Donc, tu as réussi à trouver un endroit. Ouais,
déjà, à
t'as.
comprendre les besoins de mon cheval, à co
Ouais.
comprendre exactement, bah oui, il a pas de système immunitaire, un rien la graisse, mais comment on fait avec ça?
De définir ton besoin
Tout à fait.
et qu'ensuite un professionnel, un gérant de pension, réponde à ce besoin,
C'est
quoi.
ça. Et surtout, bien avoir en tête les points de vigilance, voilà, que ce soit en termes d'alimentation ou de se dire, moi maintenant, mon cheval, c'est vrai que bah, je le vaccine parce qu'il est en collectivité et que, bon, ça, j'avoue, même quand j'étais toute seule, je pouvais pas trop tergiverser avec ça parce qu'un gérant de pension, on souhaite quand même que les chevaux soient vaccinés. Mais je veux dire, je fais très attention sur tout ce que je lui donne. Les vermifuges,
Ouais,
je
parce que
fais avec
maintenant tu connais.
parcimonie. Voilà, je sais que mon cheval, un rien peut l'agresser, donc tout ce qui est chimique, entre guillemets, j'y réfléchis à 2 fois avant de donner. Je vermifuge que quand les copros disent qu'il y a besoin. Je fais vraiment tout avec parcimonie. Je fais pas la rhino. Voilà, je fais que le vaccin grippe,
Grippe, tétanos.
tétanos. Voilà. Je fais pas la rhino parce qu'on me laisse la possibilité de pas le faire. Donc moins j'en fais, mieux je me porte avec
Mieux ton
Ashton.
cheval se porte.
Voilà, ouais, c'est ça. Et voilà. Après, c'est aussi toute une ouverture d'esprit de se dire que bah il faut faire différemment avec ce cheval et il faut pas faire aveuglément tout ce qu'on nous dit de faire 4 vermifuges parce qu'il faut faire comme ça. Et surtout aussi le prendre en compte dans sa globalité. Ça veut dire que moi je le fais voir à l'ostéo tous les 3 mois. Il est très très chanceux le mien. Je le fais voir à l'ostéo tous les 3 mois. Il travaille un peu, mais pas non plus beaucoup. Voilà, je lui offre quand même des temps de repos conséquents. S'il faut qu'il se fasse masser, si je sens qu'il faut qu'il se fasse masser parce que voilà, les séances sont un peu plus compliquées, et ben il se fait masser. Voilà, je lésine pas sur les entre guillemets soins de confort. Je sais que son petit corps est sollicité, il revient de loin, voilà, j'ai une approche globale de mon cheval et de bien-être global, surtout qui va au-delà un peu du simple problème respiratoire. Je pense que tout est lié et les problèmes respiratoires, c'est un symptôme.
On
C'est
est d'accord.
pas, c'est, c'est. Ça veut dire que le corps exprime quelque chose. Et quand je refais l'histoire depuis le début, le moindre
Tout
petit signe, voilà,
était en lien avec ça, quoi.
tout était en lien. Et les problèmes de peau, les petites quintes de toux isolées, tout ça, c'est des prémices de ce que le corps essaye de dire. Donc, voilà, on dit souvent poumon, émotion, tout ça, c'est lié. Bah voilà, mon cheval non plus a pas non plus un parcours de vie depuis qu'il est petit, forcément très simple aussi. Donc, il y a des choses de ce côté-là aussi qui peuvent expliquer pas mal de choses, mais voilà, c'est maintenant que voilà, j'ai cerné un petit peu et que j'ai été rassurée sur le fait que les dommages ne sont pas trop énormes, parce que des années de crise comme ça et de maladies un peu latentes, ça
Mais là, il va
peut.
bien.
Voilà. Alors après, il faut savoir qu'il ne respire pas comme les autres. Il est un peu plus poussif. Ça, quelqu'un
Ouais.
qui le voit peut se dire, oh là là, il est
Il est pas
poussif.
bien.
Il est pas bien. Il est comme ça. Ça l'empêche pas de galoper. Ça l'empêche pas de travailler. Ça l'empêche pas d'aller se balader. Juste, il respire un peu différemment. Mais maintenant que j'ai l'œil pour voir ce qui est entre guillemets normal de pas normal, voilà, c'est juste sa particularité à lui. Mais voilà, au niveau pulmonaire, il y a peu de séquelles Donc, c'est sûr que j'en ferai pas un adepte de 6 heures de randonnée.
Oui, tu feras peut-être pas des courses d'endurance.
Voilà, clairement pas. Et les grosses randonnées d'une journée non plus. Je pense qu'au bout d'un moment, il peinera. Mais pour faire de la balade, du travail à pied ou un peu de plat, ses poumons encaissent bien. Donc c'est voilà, au final, puis moi je l'ai un petit peu sauvé. Donc les objectifs sportifs, je m'en fiche un peu.
Ça passe au second plan.
Non, clairement, parce
Ah.
que j'ai cru le perdre quand même en pic aigu de la maladie. Il était très inconfortable. Il était presque en suffocation. Donc
Tu t'es vu en fait à un moment donné euthanasier pour
bah, j'avais surtout peur que le cœur prenne, en fait, que la
ouais.
fonction cardiaque, parce que quand quelqu'un a l'impression d'étouffer, bah, c'est le cœur qui prend.
En fait, il y a moins d'oxygène aussi, donc le cœur pompe plus pour que les muscles reçoivent. Enfin, le cœur reçoit moins d'oxygène. Et à un moment donné, il y a un effort cardiaque qui est fait pour que justement toutes les autres fonctions puissent continuer, quoi.
Tout à fait. Et j'avais peur d'après de basculer sur des problèmes cardiaques associés. Et là, ça aurait été un enfer, quoi.
Ouais.
Puis j'avais aussi peur des lésions sur le long terme, quoi. Peur qu'il y ait des
Lésions
dommages.
pulmonaires, qu'en fait
Oui.
t'aies des morceaux de poumons qui soient moins fonctionnels, enfin t'aies un
Oui.
pourcentage de poumons qui soit moins fonctionnel, donc ton cheval en fait il respire plus jamais bien.
C'est ça. En fait, j'avais peur que plus ça allait durer, plus les dégâts allaient être importants. Et plus après, ça aurait été compliqué pour lui de reprendre une vie à peu près normale, quoi. Donc, j'étais à l'époque partie sur le fait que ça se trouve, je pourrais sûrement plus rien faire avec, et ça, c'était OK pour moi. Mais je voulais juste qu'il puisse vivre,
Sa vie
correctement,
de
quoi.
cheval, quoi.
Voilà. Et je m'étais dit, en plus, j'avais l'urgence de plus j'attends,
Bah, pire que ça va être.
pire ça
Et
va
t'avais
être.
totalement. T'avais raison. Enfin, t'avais remarqué qu'en fait, ça s'améliorait pas et que ça empirait à chacune des crises.
Oui, tout à fait.
Donc, il fallait qu'il te fasse le moins de crises possible.
Oui. Donc il fallait qu'il soit le moins agressé possible. Et donc pour être le moins agressé, il fallait supprimer un max de choses. Donc
D'agresseur.
c'est ça. Et il fallait le mettre dans un environnement qui soit à peu près tolérable pour lui. Parce qu'il y a sûrement des choses à l'heure actuelle qu'il ne tolère pas, mais ça ne se traduit pas physiquement. Donc je pense que ce qu'il a gagné en requinquage lui permet de compenser aussi peut-être d'autres allergènes qui sont un peu moins agressifs, mais je pense qu'il vit maintenant un peu, il trouve un équilibre aussi, son corps finit par trouver un équilibre, mais voilà, on peut dire qu'il est un petit peu inadapté quand à son environnement, c'est voilà.
C'est presque le cas avec des allergies comme ça.
Et puis émotionnellement, bah, j'arrivais à bout, quoi. Donc il me fallait une perspective, il me fallait une idée, quoi. En tout cas, une piste à explorer, parce que avec cette maladie-là et avec le parcours qu'on a eu, on est très isolé. Au bout d'un moment, le vétérinaire, il avait ses limites, il a fait les examens, il m'a proposé des idées, et encore, il m'a même pas dit que c'était sûr que ça allait marcher, hein. Il m'a dit, il faut tester. Chaque cheval réagit différemment, on ne sait jamais. Mais j'étais même pas sûre que le passage à l'enrubanné règle mon problème.
Il fallait essayer, comme dit, il fallait que tu sois. À un moment donné, il fallait et pour lui et pour toi que tu retrouves.
Il fallait essayer et il
Parce
fallait
que vous essayez
absolument
quelque chose, quoi.
trouver un endroit qui nous permette d'essayer. C'était surtout ça le gros problème, c'est qu'il fallait nous trouver une formule de pension qui puisse nous permettre d'essayer, quoi. Et c'était très compliqué à trouver. Il a fallu faire des croix sur des copains, sur des installations, sur du confort pour nous en tant que propriétaires.
Le temps d'essayer.
Le temps d'essayer, tout ça fait.
Est-ce que t'as donné plein de conseils? Je pense que les personnes qui ont des problèmes respiratoires avec leurs chevaux vont se retrouver dans plein de petits conseils dans ce que tu nous as dit. Mais si maintenant, j'ai envie de dire, quelqu'un n'a pas, le cheval n'a pas spécialement de problèmes respiratoires qui sont remarqués. Enfin, tu vois, moi le mien, franchement, j'ai jamais remarqué de problèmes respiratoires, mais c'est peut-être que je ne les ai pas remarqués. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes comme ça? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner d'un point de vue santé respiratoire pour des propriétaires de chevaux?
Je suis effectivement intimement persuadée que de toute façon, le problème respiratoire est un symptôme, entre guillemets, une
D'accord.
conséquence, et en aucun cas, ce n'est une cause. Je pense que si un jour vous trouvez que votre cheval respire un petit peu plus fort que d'habitude, ou si vous trouvez qu'à l'effort, il est plus poussif
Ouais, qu'il y a des petites quintes de toux, comme
voilà,
tu
qu'il y a des petites
disais.
quintes de toux. Pour moi, un cheval qui a une quinte de toux, il faut pas la banaliser. J'ai souvent entendu des chevaux tousser au pré de manière isolée. Pour moi, c'est pas normal.
Et donc de trouver, de prendre cette toux comme un
Voilà,
symptôme
il
et de chercher
faut
la vraie cause
tout à
derrière
fait.
cette toux.
Je pense que quand on est propriétaire de son cheval, on le connaît. Et le moindre truc qui nous paraît anormal, que ce soit une respiration un peu plus poussive, un état aussi qui est général qui se dégrade ou qui en tout cas ne ressemble pas au cheval qu'on a connu, une quinte de toux, des séances qui physiquement deviennent plus difficiles pour le cheval, etc. Je pense qu'il faut se faire confiance et il faut surtout toujours garder son esprit critique. On est propriétaire, si on remarque un truc qui va pas. Faut pas le minimiser. Je veux dire, il faut demander conseil à un véto ou à un propriétaire en qui on a confiance, qui nous connaît, etc. Il faut aussi se documenter. Je pense que c'est important en tant que propriétaire qu'on ait un avis éclairé sur la prise en charge globale de son cheval. Ouvrir sa vision sur déjà des soins de confort qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai vu que le massage sur mon cheval était super parce qu'il avait la cage thoracique qui était toute comprimée comme ça et des abdos en béton et il était un peu comme un tréteau des fois. Et le massage lui a permis voilà,
De sourire.
de se délier entre guillemets.
Donc tu t'es renseigné et t'as essayé quoi.
Voilà, je me suis renseignée sur tous les soins un peu alternatifs qu'on peut avoir. Je me suis intéressée à l'alimentation, je me suis intéressée sur la vermifugation, surtout quand on est en pension, on nous dit de faire ça, ça et ça, mais oui, mais pourquoi on me demande de faire ça? Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus respectueux pour nos chevaux? Je pense que c'est important de jamais cesser de se documenter, voilà, de s'ouvrir. À ce qu'on peut trouver. On a la chance en plus d'avoir des sites internet, des comptes comme le tien qui proposent des podcasts, des cavalcades, etc. Donc c'est important de garder l'esprit ouvert et je pense que notre cheval, c'est nous qui le connaissons le mieux. Et si on voit un truc qui n'est pas normal, c'est pas normal et il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là.
Ouais, et pour toi, du coup, pour toi, c'est de la responsabilité du propriétaire de se former.
Oui, puis en fait, nous on a l'œil, nous on voit notre cheval très régulièrement, comparé au véto qui le voit que quand on l'appelle, ou au gérant de pension qui malheureusement des fois porte pas forcément attention à des petits détails. Nous, voilà, surtout si la relation elle est installée, que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années qu'on a notre cheval, je pense qu'on le connaît, et un problème de comportement ou une anomalie physique doit nous alerter et il faut pas minimiser. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, ces problèmes de peau, j'y ai pas forcément vu un signal, alors que pour moi, un problème de peau, maintenant, doit être un signal. Un problème de peau, une quinte, une respiration qui devient anormale presque du jour au lendemain, bah, même un poulpe pourrait élargir, hein, une boiterie, une fourbure, etc. Le corps dit quelque chose. Je suis intimement persuadée que le corps dit quelque chose à chaque
Et
fois.
pour toi, il y a une grosse partie du propriétaire, enfin le propriétaire doit pouvoir se former sur le
Ou
sujet.
en tout cas déjà savoir repérer ce qui n'est pas normal. Et après, voilà, on n'a pas réponse à tout. Je suis pas vétérinaire, je suis pas ostéo, etc. Mais au moins savoir dire, voilà, là il y a quelque chose qui me paraît pas normal. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Déjà, si les propriétaires s'autorisent à faire ça, parce que c'est pas non plus évident d'accepter quelque chose qui n'est pas normal. Mais voilà, et après, voilà, il y a des gens qui pourront aider, en tout cas des gens qui vous peut-être vous mettront sur des pistes qui aboutiront, j'espère.
Et écouter les pistes.
Et voilà, et je reste intimement persuadée que de toute façon, il faut se faire confiance et que on est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour notre cheval, en tout cas. Donc, Et on a le droit de tester, on a le droit de se tromper, et ce qui marche pour un ne marchera pas forcément pour l'autre, mais au moins on avance. Le principal, je pense, c'est d'avancer dès qu'on a un doute, pas rester ancré dans une solitude, en tout cas la solitude du propriétaire, souvent quand quelque chose ne va pas, c'est important. C'est important parce que ça permet de prendre des décisions et je pense que des choix pathologiques, c'est important d'avancer.
Ça fait une très très chouette, ça fait beaucoup de conseils de donner et c'est vrai que c'est exactement ce vers quoi j'ai envie d'aller avec ce podcast et avec mon entreprise.
Eh ben, je suis ravie d'avoir contribué avec ma modeste expérience.
Ouais. Donc ouais, franchement, tu as donné beaucoup de conseils en cas de problème respiratoire et en cas d'autres problèmes, parce que ce que tu as dit à la fin, c'est le cas, quel que soit le problème.
Oui, au locomoteur ou oui.
Locomoteur, enfin, tu vois, t'as parlé de la fourbure, mais je pense aussi à des tendinites, tout ça s'applique exactement pareil, à des problèmes d'arthrose, à des problèmes, enfin,
Ouais, le corps
il y a
s'exprime. Ouais,
énormément de choses qui
c'est
peuvent.
le corps s'exprime d'une manière ou d'une autre. C'est sa façon à lui s'exprimer. C'est pas forcément pareil d'un cheval à l'autre. Hein.
D'un cheval à l'autre.
Mais je pense que voilà, il faut accepter les signaux parce qu'en tant que propriétaire, c'est pas toujours facile d'accepter qu'effectivement, bah là, notre cheval il boitille un peu. Là aujourd'hui, il est un peu apathique.
Ouais, là aujourd'hui, il refusait de prendre le
Voilà.
galop
Ou là,
ou là
il marche comme un
aujourd'hui, il
tréteau.
marchait vraiment moins
Voilà.
bien sur les
Oui,
cailloux.
tout simplement. Ou là, bah, les pieds ressemblent pas. Voilà. Depuis le dernier parage, je vois que le
Ça
pied,
devrait ressembler.
il prend pas une bonne tournure. Moi, durant la phase,
Ouais, mais c'est vrai qu'il faut déjà apprendre à les reconnaître, tous ces signes.
ouais, dans la phase de la maladie, moi, les pieds d'Ashton, ils s'exprimaient pas. Ça veut dire qu'en fait, on le parait, on revenait après. Bah, le pied, il avait certes poussé, mais il y avait rien il se passait rien au niveau de ses pieds. Le pied, parce qu'il était toujours en train d'être comme ça, complètement étriqué, un peu coincé dans sa cage thoracique. Donc, en fait, au niveau de ses pieds, au niveau de la locomotion, il se passait pas grand-chose. Donc, les pieds travaillaient pas, en fait. Les pieds ne s'usaient pas un minima naturellement. Et depuis qu'il allait mieux, maintenant, là, voilà, les pieds, ils vivent. Il y a du travail sur les pieds qu'il n'y avait pas avant, quoi. Donc, on sent que le corps, là, voilà, maintenant, il va mieux, quoi. C'est tout un tas de choses comme ça se voyait sur ses pieds, sur ses allures, sur.
C'est lié et comme dit, c'est le pour moi seul le propriétaire en fait peut voir tous ces liens.
Tout à fait. Il faut
Seul un
vraiment se faire
propriétaire peut
confiance.
les faire.
C'est quelque chose qui vous met la puce à l'oreille où vous vous dites c'est pas normal. Eh ben vous avez raison, vous connaissez mieux votre cheval et voilà, il y a quelque chose à faire, ou en tout cas il y a quelque chose à chercher. Et on a le droit de se tromper, on a le droit d'aller dans la mauvaise direction, mais c'est important d'être aussi bienveillant envers soi-même, de se dire que là, moi, je cherche, je vois qu'il y a un truc qui va pas, je cherche, je me fais aider, c'est super cool déjà ce que je fais, de chercher, de me faire aider,
Ouais.
et ça marche pas, bah, c'est pas grave, on va chercher une autre
On va
solution.
trouver autre
Voilà,
chose.
je pense que pour être un bon propriétaire, il faut accepter de se tromper. Ou en tout cas de pas savoir déjà et peut-être de se tromper. Pour moi, ça fait partie du dur métier de propriétaire.
Ouais. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute cette
De
discussion.
rien, j'espère que toutes les auditrices pourront déjà avoir survécu à la durée de ce webinaire parce que je suis très pipelette voilà, se reconnaîtront un petit peu chacune dans ce que j'ai pu dire. Voilà. Et s'il y en a qui sont dans la qui ont un cheval dans la situation d'Ashton, de surtout ne rien lâcher. C'est difficile de les voir
On
mal.
peut y
Voilà, c'est
arriver.
difficile de les voir mal, mais il y a des lumières au bout du tunnel et il faut
Et
continuer à chercher.
tu nous en as montré une
Ah
aujourd'hui.
oui, hein, c'est un guerrier le mien. D'ailleurs, il a développé un vrai caractère de guerrier. C'est maintenant son caractère et c'est endurci comparé au poulain que j'ai récupéré. En 2012, c'est compliqué de les voir un peu suffoquer. C'est très impressionnant, mais voilà, il faut garder à l'esprit qu'il faut il faut avancer et que de toute façon, c'est en tentant qu'on voit ce qui marche. Donc il faut aussi surtout s'entourer. C'est important de ne pas rester seul face. Ça, c'est valable pour tous les problèmes de santé, hein. De surtout s'entourer, de ne pas rester seul avec la pathologie, parce que c'est très compliqué aussi après, humainement à vivre. Donc,
Très bien. Et eh ben écoute, on va finir cet épisode sur ça. Merci
Et
beaucoup.
bah de rien, avec plaisir.
Et à bientôt à celles qui nous
À
écoutent.
bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!